Nous allons à présent lire la parole de Dieu et la parole de Jésus-Christ dans l'Évangile. C'est l'Évangile selon Marc, au chapitre 13, depuis le verset 33. C'est donc la fin de ce discours du chapitre 13, où Jésus parle à ses disciples de la fin des temps. Donc nous lisons dans Marc, chapitre 13, verset 33, où Jésus nous dit « Prenez garde, restez réveillés, car vous ne savez pas quand c'est le moment. C'est comme un homme qui part en voyage, qui a laissé sa maison et a donné autorité à ses esclaves, à chacun son travail. Il a aussi commandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le seigneur de la maison, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou tôt le matin, de peur que venant à l'improviste, il ne vous trouve en train de dormir. Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Je commencerai par citer un ancien homme d'État suisse, Jean-Pascal Delamura, feu Jean-Pascal Delamura, qui fut conseiller fédéral et qui est mort en fonction en 1998, qui était l'un des quelques grands hommes d'État, je crois, de l'histoire suisse. Et il disait « Le Suisse se lève tôt, mais il se réveille tard. » On pourrait prendre cette phrase au sens purement littéral, ceux qui sont hyper littéralistes. Il y a peut-être des gens qui travaillent tout en dormant, et là je ne parle pas seulement de ceux qui scient du bois. On peut aussi être réveillé au sens littéral, être à fond dans ce qu'on fait, mais être incapable d'en lever le nez au point d'être surpris par des événements qui étaient pourtant prévisibles. Ou, au sens où l'entendait Jean-Pascal Delamura quand il parlait de ses compatriotes, se dire que de toute façon, rien ne va changer et s'en tenir au train-train quotidien. Et quand le reste du monde change, se persuader que ça ne nous concerne pas. Et on finit par réagir trop tard quand le changement dont tous les autres parlaient finit par frapper à notre porte, voire par enfoncer la porte. Dormir, ce n'est pas forcément rester inactif. Dormir, c'est vivre et travailler en pilotage automatique sans rien attendre de nouveau ou d'inédit. Jésus a dit « Prenez garde, restez réveillés. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. » Le contexte de ce qui est en fait un long discours, c'est quand Jésus et ses disciples ont quitté le temple, qui était d'ailleurs encore en travaux du temps de Jésus, avec tout cette extension du temple faite, commencée par Hérode le Grand, les travaux, c'est un chantier continuel, ça l'a été jusqu'à sa destruction en l'an 70. Et ses disciples disaient « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Et Jésus de répondre « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Le temple, il est là pour l'éternité. Eh bien non. Et puis, comme Jésus était assis sur le mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André se mirent à l'interroger en privé. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe que tout cela doit arriver à son terme. Et Jésus se met à parler de la destruction du temple, prédiction qui s'est réalisée en l'an 70, et de la fin des temps. En résumé, il y aura beaucoup de signes de la fin, la destruction du temple en est un, mais la fin elle-même, avec le retour promis de Jésus, personne ne sait quand cela aura lieu. Au verset 32, juste avant notre passage, Jésus disait « Concernant ce jour ou cette heure, personne ne sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne, sinon le Père. » Ce que Jésus, dans ce chapitre, veut dire à ses disciples et à nous, tient en deux exhortations. D'abord, ne vous agitez pas, ne vous laissez pas impressionner par ceux qui s'excitent en vous fixant une date pour l'événement ou en prétendant même que le Christ est déjà revenu, peut-être en prétendant être eux-mêmes ce Christ revenu sur terre. Ne vous excitez pas, ne vous laissez pas emporter par les émotions ou par le sensationnel. Mais, d'un autre côté, seconde exhortation, ne vous endormez pas, ne vous endormez pas non plus, car la venue de Jésus aura lieu, c'est certain, et vous ne savez pas quand, ce sera au moment où vous n'y pensez pas. Ne pas savoir quand viendra le Christ, c'est là une ignorance mobilisatrice. Car nous tous qui avons été appelés à sa suite, nous tous qui sommes ses disciples, nous avons une tâche à accomplir. Le Seigneur nous dit d'être prêts. Ce que je vous dis à Pierre, à Jacques, à Jean et à André, je le dis à tous les disciples qui étaient alors présents avec lui, mais aussi tous les disciples à l'avenir, nous aussi en 2014, veillez. Veillez. Qu'est-ce que cela veut dire? Et comment pourrions-nous être tentés de dormir aujourd'hui? Et j'essayerai d'expliquer cela en trois points. D'abord les pièges de l'adversité, puis les pièges de la prospérité, et vive la révolution. Je ne vais pas dire forcément française, mais voilà. D'abord, piège de l'adversité. Nous entrons maintenant dans le temps de l'avant. Le mot « avant » avec un « ne », justement, ce n'est pas l'adverbe « avant », veut dire, ça vient de latin « adventus », ça veut dire la venue. Et en ce temps de l'avant, il s'agit aussi de se préparer à la seconde venue de Jésus. Car se préparer à la seconde venue de Jésus, à la fin des temps, c'est la meilleure façon de se mettre dans l'esprit de sa première venue, celle que nous allons célébrer à Noël. Pourquoi ? Parce que Jésus veut justement que nous vivions, jusqu'à son retour, dans l'esprit de sa première venue, l'esprit de son humilité, de son service et des souffrances qu'il a vécues. En parlant de souffrance, il y a plusieurs points de contact entre l'enseignement de Jésus sur la fin des temps, dans ce chapitre de Marc 13, et le récit de la Passion qui suit juste après, au chapitre 14 et 15. Déjà le lieu où Jésus enseigne ses disciples, le mont des Oliviers, c'est le lieu même où il sera arrêté quelques jours plus tard, après avoir passé une agonie spirituelle dans le jardin de Gethsémani, donc sur les flancs de ce même mont des Oliviers. Et puis, dans le passage que nous avons lu, il dit « de peur que venant à l'improviste, donc le Fils de l'homme à la fin des temps, que venant à l'improviste, il ne vous trouve en train de dormir. » Mais c'est sûr que quelques jours après, lui-même les a trouvés en train de dormir dans le jardin alors qu'il priait. Il y a là comme un écho assez saisissant. Et puis, veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le seigneur de la maison, le soir ou à minuit ou au chant du coq ou tôt le matin. Ces quatre expressions, le soir, à minuit, chant du coq, tôt le matin, c'est une manière de désigner les quatre veilles dans lesquelles les Romains divisaient la nuit. Quatre veilles de longueur variable, vu que, bien sûr, la nuit est de longueur variable, mais il y avait toujours quatre veilles. Donc ça veut dire qu'à l'équinoxe, elle durait chacune 3 heures, mais autrement, c'était plus court ou plus long. La première, eh bien, depuis le coucher du soleil, 2 ou 3 heures. À minuit, ce n'est pas minuit pile, mais c'est vraiment celle qui inclut minuit, celle du milieu de la nuit. Et c'est là que Jésus les a trouvés en train de dormir alors qu'ils priaient dans le jardin de Gethsémani. Au chant du coq, c'est quand il fait encore nuit. Contrairement à la croyance populaire, le coq ne chante pas pour la première fois quand il voit le jour, mais avant. Et donc, au chant du coq, suivant l'heure où se lève le jour, ça peut être déjà 2 heures du matin, ou 2-3 heures. Et la veille où a lieu ce premier chant du coq, on l'appelait la veille du chant du coq, c'était l'avant-dernière, pas la dernière. Et tôt le matin, à partir du moment où on voyait un peu de lumière, jusqu'à l'aurore, c'était la veille tôt le matin. Tôt le matin, nous est-il dit dans Marc 15, Jésus a été mené devant Pilate. La crise, l'adversité, la persécution. Reconnaissons-le, il nous arrive d'envier les églises persécutées. Nous nous disons, au moins l'adversité, ça galvanise. Et puis on est obligé de se réveiller peut-être, quand c'est l'adversité. Et puis on se dit, face au danger extérieur, les chrétiens sont unis. Alors sur ce dernier point, il faut vraiment se détromper, car la persécution peut tout aussi bien augmenter les causes de division. Quand on connaît bien l'histoire des évangéliques en Union soviétique, les divisions, la tendance aux divisions et aux schismes, elle n'a pas diminué, mais elle a augmenté en fait en temps de persécution. Il faut le savoir. En partie motivée par différentes réactions aux pressions politiques, et on n'était pas d'accord sur ces réactions. Mais aussi, tout simplement, exacerbation de différences doctrinales. Ce n'est pas la persécution qui met fin à cela. Galvaniser. Peut-être que oui, mais peut-être aussi découragé ou dépassé, submergé, comme les disciples à Gethsémani, ou alors présumant de leur force, comme Pierre, avant qu'il renie Jésus. Et cela peut arriver à tout chrétien dans l'adversité, et cela arrive aussi dans les persécutions. Ne souhaitons jamais la souffrance ou l'adversité. Elle vient d'ailleurs toujours trop tôt, dans nos vies également. L'adversité peut être pas spectaculaire, mais la personne qui l'a subie, elle sait bien ce que c'est que l'épreuve ou l'adversité. Nous ne pouvons pas prévoir les assauts de l'adversité. C'est donc maintenant qu'il faut cultiver la vigilance dans la prière. c'est maintenant qu'il s'agit de cultiver une juste vision de nous-mêmes, humble, c'est-à-dire réaliste. Connaître nos forces et nos faiblesses. Cela se cultive en communauté, en nous frottant les uns aux autres. C'est ainsi que nous prenons justement conscience de nos forces et de nos faiblesses. Les pièges de l'adversité. Mais il y a aussi, deuxièmement, les pièges de la prospérité. Les pièges de la prospérité sont encore plus grands et surtout plus subtils que ceux de l'adversité. Ça peut être simplement le laisser aller, se dire que tout roule, vivre en roue libre, ou alors être suroccupé dans les pays où il y a la prospérité économique. On est suroccupé de plus en plus aujourd'hui, comme on le dit avec cet anglicisme, surbooké. Je ne sais pas si vous parlez comme ça en France, en Suisse, on commence à parler comme ça. Ouais. Oui, la prospérité n'est pas facile à vivre. Alors, je ne sais pas si en France, les problèmes d'emploi font que les gens sont moins stressés ou moins suroccupés, je ne sais pas. En Suisse, nous avons, grâce à Dieu, très peu de problèmes d'emploi, mais alors les gens se plaignent de plus en plus d'être suroccupés. Et puis, il y a le cycle stress-décompression. Et on sait très bien que même du point de vue physiologique, ça peut jouer de vilains tours. D'ailleurs, moi, c'est marrant, mais les rares fois où vraiment il y a un virus qui m'attaque avec succès, une grippe ou comme ça, c'est toujours pendant les vacances. Et ce cycle stress-décompression, eh bien, il nous rend aussi vulnérables spirituellement. Peut-être même pas à la pointe du stress, mais au moment de la décompression. À quoi s'ajoute, bien sûr, nous la connaissons bien, cette pression de la société de consommation. Il s'agit d'être vigilant, de maintenir en tout temps les priorités de la discipline spirituelle. Mais même là, il ne s'agit pas d'une recette toute simple, parce qu'on pourrait dormir avec une recette toute simple. La discipline, parfois, peut aussi être un sommeil. Avec les signes de la fin des temps, dont Jésus a parlé dans ce chapitre, le Seigneur nous donne aussi des signes de l'avancement de son projet. Il a dit au verset 10, « Il faut que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. » Et aujourd'hui encore, en divers lieux, en divers temps, de manière différente pour chaque situation, il donne des signes à son Église, des signes qu'il est temps d'entrer pour telle Église, dans telle situation, dans une nouvelle étape, peut-être très différente de la précédente. Individuellement aussi, le Seigneur peut nous faire signe, nous indiquer un changement, une réorientation, un nouvel engagement. Et c'est là que nous arrivons dans le troisième point, après tous les pièges, nous arrivons dans le troisième point, vive la révolution. Dernière des veilles dont Jésus parle, vous ne savez pas quand il viendra, et il mentionne la dernière veille, tôt le matin, tôt le matin, dans le récit de Marc ensuite, c'est le moment où les femmes disciples ont découvert le tombeau vide, au début du chapitre 16. C'était tôt le matin que Jésus a eu le procès devant Pilate, mais c'est aussi tôt le matin que les femmes ont découvert le tombeau vide. Avec ce message, il est ressuscité, il n'est pas ici. La résurrection, c'est une révolution, un changement de fond en comble, bouleversant, effrayant. D'ailleurs, dans Marc, les femmes sont surtout effrayées, au point de ne même pas en parler. C'est comme ça que le récit du tombeau vide, de la découverte du tombeau vide, se termine dans Marc. Et après 2000 ans, on pourrait se dire, eh bien, le monde n'a pas changé. Il ne s'est en tout cas pas amélioré. Mais justement, si on sait le voir, cette force de vie, cette force révolutionnaire travaille discrètement, mais elle travaille notre réalité avec patience. C'est une révolution de l'amour. Pour ceux et celles qui sont engagés comme disciples du Christ, il y a toujours de nouveaux liens à créer ou d'autres liens à entretenir et à approfondir ou à renouveler quand ils se sont usés, effilochés. En conclusion, la pire des situations, c'est de vivre la foi comme la partie religieuse d'une vie bien compartimentée. Se dire, eh bien, voilà, j'ai une pratique religieuse, c'est le tel jour, en général le dimanche, c'est telle heure, le reste de ma vie, c'est autre chose, d'ailleurs ça ne regarde que moi. Ça, c'est la pire des situations pour dormir spirituellement. Ou alors, on peut vivre la voie à plein temps, oui, vouloir de tout cœur la vivre à plein temps, mais la fatigue s'installe. Alors, on se lasse, on est prêt peut-être à se laisser détourner de ce chemin de la vie qui est exigeant. Alors, par lassitude, on peut être sur le point de se laisser détourner de ce chemin de la vie, ou encore, on se met en pilotage automatique, sans plus rechercher la volonté de Dieu, qui peut nous appeler demain, après-demain, on ne sait pas quand, à revoir des priorités. Si nous ressentons la fatigue dans notre marche de disciple, il est important de revoir nos activités. Peut-être qu'il y en a trop, ou peut-être tout simplement qu'elles continuent parce qu'on a pris l'habitude et qu'on ne sait plus vraiment pourquoi on les fait, ou comment elles entrent dans le projet de Dieu pour nous, autant comme individu que comme Église. Il s'agit de revoir nos activités et voir comment elles entrent de manière cohérente dans le projet que le Seigneur a pour nous aujourd'hui et demain, et rechercher ainsi la face du Seigneur. En tout temps, nous sommes invités à être attentifs à ce que Jésus veut faire de nouveau en nous et par nous. prions. Seigneur, ce matin du premier jour de la semaine, on a trouvé le tombeau vide. Tu es ressuscité. Et tu nous appelles, chacune, chacun, à cette vie nouvelle et à poursuivre cette vie nouvelle. Seigneur, aide-nous à rechercher ta face et à voir les signes que tu nous donnes, les signes du rafraîchissement, les signes de ce vrai repos qui paradoxalement peut être très actif, mais où nos forces sont renouvelées. Aide-nous, Seigneur, sur ce chemin. Amen.